allez bien. Venez bien. Je voudrais nous conduire à découvrir le cœur de Dieu. Nous avons chanté « Je veux connaître ton cœur ». C'est particulier de parler du cœur de Dieu. On pourrait même parler de ses entrailles. Dieu a un cœur. Si on veut le connaître, ça va nous surprendre, ça va venir nous bousculer dans nos schémas. Et je pense au fait que Dieu avait dit à Pierre, je te donnerai les clés et par cela, le royaume de Dieu va s'ouvrir à d'autres. Et je pense à une scène particulière où Dieu révèle son cœur à Pierre et à ce moment-là, il ouvre la porte du royaume de Dieu à ceux qui n'étaient pas juifs. Parce que quand ils avaient reçu au tout départ, c'était que les juifs, ça se passait à Jérusalem, le Saint-Esprit est venu à Jérusalem, et puis c'était que des croyants juifs qui étaient là et ils s'imaginaient que ce salut venant de Jésus ne concernerait que les Juifs. Et Dieu donne une clé particulière à un moment particulier de Pierre. Je vous demanderai votre attention parce que c'est un lien direct avec ce qu'on vient de vivre. Pierre est en prière et Dieu lui révèle une chose qui vient le bousculer. Toute sa vie, de génération en génération, ses parents, ses amis, ses voisins, vivaient le fait que l'image, c'était des animaux impurs. Ces animaux impurs, ils ne pouvaient pas en manger. Ça faisait partie de la loi. Il y avait des animaux purs qu'on pouvait consommer et manger et des animaux impurs qu'on ne pouvait pas manger. Et Dieu lui dit, alors qu'il est midi, il a faim, prends ces animaux impurs, il le voit dans une vision, tue-les et mange-les. Et lui, il dit non à Dieu. Il dit non. Parce qu'il y a quelque chose qui était étroit dans sa conception. Et Dieu lui dit, dorénavant, ce que tu considérais comme impur, donc c'était une image, d'accord ? Pour parler de nous, les non-juifs. Et à ce moment-là, Pierre est envoyé par le Saint-Esprit vers Corneille. Corneille, qui était un Romain, un non-juif, d'accord ? Mais là, suivez-moi bien, je vais vous parler du cœur de Dieu. La Bible nous présente dans Acte 10 Corneille en disant que c'était un homme qui craignait Dieu. Et le résumé de la crainte de Dieu, c'est très profond. Il aime Dieu, il le cherche. La Bible nous dit qu'il le priait continuellement. Il faisait deux choses qui manifestaient sa crainte de Dieu, le fait qu'il connaisse le cœur de Dieu, c'est qu'il priait et il donnait aux pauvres. Et le cœur de Dieu que j'aimerais nous partager, vous partager ce matin, c'est sa compassion, son amour pour les pauvres. Et quand on craint Dieu et que la Bible le résume en disant on pratique la justice, c'est-à-dire on prie, on a une piété, on prie Dieu, mais on pratique la justice, c'est-à-dire qu'on est concerné par ce qui touche le cœur de Dieu, c'est-à-dire les pauvres. Corneille, qui est l'homme pour lequel Dieu, dans son amour, dans sa compassion de toute éternité, en disant après la venue de Jésus, toutes les nations pourront rentrer dans le royaume de Dieu, goûter l'amour du Père. Corneille est l'exemple, est notre, je sais pas, notre Abraham, on pourrait dire. Les Juifs ont Abraham. Le tout premier de la foi qui est entré dans le royaume, le tout premier, c'est Corneille. Et je nous invite à pratiquer ce qu'il a pratiqué, qui exprime le cœur de Dieu. Ça a touché le cœur de Dieu. Dieu a choisi un homme qui faisait deux choses que je nous invite à faire dans cette saison de notre vie d'Église. Si vous lisez dans Actes 10, Corneille donnait beaucoup de monnaie aux pauvres. Il priait continuellement. Et en priant continuellement, il a découvert le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu l'a conduit à avoir compassion pour ceux qui sont dans le besoin. Et quand Dieu dit ça, c'est possible de mettre juste le premier verset. C'est extraordinaire, hein ? Imaginez, un ange de Dieu est envoyé par Dieu du ciel pour parler à Corneille. Et en résumé, il lui dit, tes prières, il priait continuellement, et nous sommes en prière, nous allons prier encore, on va jeûner, on va se tenir devant Dieu, ça c'est très important. Puis il dit, tes prières et tes aumônes, c'est même pas ton aumône, tes aumônes continuelles, c'est une pratique dans sa vie. Il donne aux pauvres, il donne aux pauvres, il donne aux pauvres, il donne aux pauvres, parce qu'il connaît le cœur de Dieu. Et il dit ces deux choses sont montés devant Dieu. Ça me fait penser à un parfum. Le parfum est monté. Le parfum est monté. Le cœur de Dieu a été touché. Le cœur de Dieu a été touché. Bouleversé. Ses entrailles sont bouleversées par un homme qui a découvert son cœur. En fait, c'est comme si en pratiquant cela, ça a ouvert le ciel. Le ciel s'ouvre. Dieu envoie son ange. Il lui dit, hey, ça y est. Ça fait, je ne sais pas, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu pries et tu veux connaître Dieu davantage. Eh bien, c'est le moment. Je vais t'envoyer un homme qui est juif, qui normalement ne devrait pas venir chez toi. Les juifs à l'époque, Pierre, n'avaient pas le droit de rentrer chez un non-juif. C'était la tradition, c'était leur conception du fait qu'ils devaient se garder purs et ne pas être influencés par les non-juifs qui risquaient de les détourner de Dieu. Donc ils restaient toujours entre eux, quitte jusqu'à aller ne pas rentrer dans la maison d'un non-juif, c'est-à-dire de nous. Et là, Corneille, il a tellement touché le cœur de Dieu que Dieu envoie un ange. Et c'est à ce moment-là que Dieu parle par une métaphore, une image à Pierre. Pierre voit cette toile qui descend du ciel. À plusieurs reprises, il dit « Non, je ne peux pas ». Puis pendant qu'il réfléchit, le Saint-Esprit lui dit « Il y a des hommes qui ont été envoyés par Corneille qui vont venir te chercher. Suis-les. Je t'ordonne de rentrer dans la maison d'un païen. » Vous voyez, païen, c'est le terme de non-juif. Et lui, il est bouleversé, il dit, c'est pas possible, comment ? Mais le Saint-Esprit dit, c'est moi qui te le dis, oui Seigneur, je vais t'obéir. Mais moi, je comprends pas, je suis déboussolé dans tout ce que j'ai appris de génération en génération. Et c'est à ce moment-là que cette fameuse parole de Jésus qui dit, je te donnerai les clés et tu ouvriras le royaume de Dieu. À qui ? À des non-juifs, à nous. Et notre Abraham, à nous, comprenez-moi, hein, le premier à rentrer dans la foi en tant que non-juif. Il vit ça, l'ange descend et il attend. Et il rassemble, vous savez quoi ? Tous ses amis, les plus proches, sa famille, tout le monde est là. La maison est remplie, plein à craquer. Et puis, deuxième slide, s'il te plaît. Pierre arrive, avec tout ce qu'il vient de vivre, il est bouleversé par le cœur de Dieu. Et il voit des gens rassemblés et il obéit, il rentre dans la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il devait avoir des frissons, je ne sais pas quoi. Il se dit, oh, je rentre dans la maison, c'est de païens. Et là, Corneille lui raconte ce qui lui est arrivé et il lui dit, l'ange a dit de t'appeler, nous sommes là, parle-nous. On veut, tu as quelque chose à nous dire, on ne sait pas ce que c'est, mais tu as quelque chose à nous dire. Et c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle, c'est ce qu'on appelle l'évangile. D'accord ? Et avant de prêcher l'évangile et de dire ce fameux texte que nous connaissons, le Saint-Esprit a oint Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, il dit ça pour dire c'est l'évangile. Mais juste avant, il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, lui est agréable. On veut connaître son cœur ce matin ? On veut savoir ce qui lui est agréable pour lui plaire. C'est ça qu'on a chanté. Ce qui lui est agréable, c'est qu'on le craigne, qu'on le prie, et qu'on pratique la justice. Et pratiquer la justice ici, c'est tout simplement donner aux pauvres. Je veux nous faire découvrir le cœur de Dieu qui nous dit, si tu t'occupes des pauvres, je vais m'occuper de toi. Si tu t'occupes des pauvres, je veux ouvrir le ciel, les anges vont venir te visiter. Alléluia. Qui c'est qui veut la visitation angélique là ? Comme Corneille, le premier dans la foi à rentrer dans le royaume, on va pratiquer le fait de donner aux pauvres, et pas simplement de temps en temps, quand le cœur nous en dit, ou que je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui savent, vous savez, il y a des ceux qui font la manche, ils s'appellent comment déjà ? Les mendiants, voilà les mendiants, c'est le terme, qui savent y faire. Il y a des mendiants qui ne savent pas y faire, mais il y en a qui savent y faire. Moi, il n'y a pas longtemps, je marchais, j'étais avec ma fille, il y en a un, il m'interpelle, je m'arrête, et puis il me dit, tu n'aurais pas une petite pièce ? Le fait qu'il ait fait ça, qu'il m'ait interpellé, que je me sois arrêté. Je sais, des fois, on trace notre route, on est pris dans quelque chose, on le voit, mais on ne s'arrête pas vraiment. C'est vrai aussi. Là, il s'est débrouillé, je ne sais pas, il ressemblait pas du tout. C'est comme s'il allait me dire, tu n'as pas l'heure ou quoi ? Je me tourne vers lui, et il se trouve que j'avais de la monnaie dans la poche. Je lui ai donné. Et je vais vous dire, Corneille, il sait faire ça envers Dieu. Tu veux interpeller le cœur de Dieu pour qu'il donne ? Donne aux pauvres. C'est ça le résumé de cette histoire. Et c'était pas... Vous savez, prier pour lui, c'était continuel. Tout le temps, il priait. Et la Bible dit, il donnait beaucoup. Je me dis, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que ça veut dire, beaucoup. C'est quoi beaucoup pour vous ? Beaucoup. C'est pas un euro. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas un euro. C'est pas la manche, c'est pas la quête, c'est pas une pièce. C'est honorer les pauvres en partageant ce que Dieu nous a donné. On veut connaître son cœur ce matin. Je veux vous partager son cœur. Il n'a pas choisi Corneille par hasard. Il a choisi pour ces deux caractéristiques. Et Pierre est bouleversé parce qu'il dit, je vois que Dieu ne fait point exception. Faire point exception, ça veut dire quoi ? Il ne fait pas de différence. Depuis que Jésus est venu, Dieu avait fait alliance avec Israël. Et effectivement, le salut était partagé quand Israël, dans leur conception, ils croyaient que c'était ça. Mais Jésus, quand il est venu, il dit, ce sacrifice ne vaut pas que pour les Juifs, les Hébreux. C'est pour tout le monde. Par contre, il y a des fondamentaux qui traversent toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Celui qui craint Dieu, celui qui lui est agréable par la louange, par la prière, par le jeûne, mais aussi par le fait de partager ton bien. C'est-à-dire, si tu reçois ce royaume, si tu reçois cette bonne nouvelle, si la vie vient en toi, si l'amour de Dieu vient en toi, ce n'est pas possible que ça ne se traduise pas par le fait de partager ce que tu as. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sinon, ce n'est pas l'évangile. Sinon, ce n'est pas la bonne nouvelle. Sinon, ce n'est pas le royaume. Le royaume, automatiquement, quand il vient quelque part, il se partage. Il bouleverse un cœur, il le libère, il le guérit, il le restaure, et il se partage. C'est automatique. La marque du royaume de Dieu, la marque de la grâce de Dieu, la marque de la puissance de Dieu dans nos vies, de l'amour de Dieu sur nous, ce n'est pas possible qu'on reçoive cet amour et qu'on ne le partage pas. C'est juste pas possible. Et pas simplement la bonne nouvelle, ce qui va avec la bonne nouvelle. Et vous allez le voir. À un moment donné, bon, la définition de l'aumône, c'est vrai que c'est un vieux mot. Mais moi, je l'aime bien, ce mot. Mais la définition, c'est une offrande aux nécessiteux sans contrepartie. J'aime bien cette définition. Ça veut dire que tu ne donnes pas pour recevoir de lui. Tu ne donnes pas pour être vu par les autres, tu donnes parce que tu as goûté à l'amour de Dieu et que tu veux être un véhicule de Dieu pour que le royaume de Dieu touche ceux qui sont dans le besoin. C'est ça l'aumône. J'ai goûté à cet amour, je ne peux pas le garder pour moi. Et à un moment donné, Israël avait une attente particulière d'un Messie qui devait venir. Jésus était le Messie, celui que Dieu avait promis, et il attendait depuis des siècles. Quand il arrive, il s'était représenté ce qu'il devait faire. Même Jean-Baptiste, qui discerne en Jésus le fameux agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire le sacrifice, celui qui va mourir pour nous délivrer. Il reçoit cette révélation, mais qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'à un moment donné, il doute. Il est en prison et il doute. Il dit, mais est-ce que c'est vraiment toi qu'on doit attendre ? Est-ce que c'est vraiment toi le Messie ? Il doute. Jésus guérit les malades, il ressuscite les morts, etc. Puis il rajoute une phrase. Tu peux me le mettre, c'est dans les slides là. Je ne sais pas si c'est juste celle qui suit. Mais il dit une chose qui est extraordinaire, qui correspond... Non, ce n'est pas grave, je le dis maintenant, mais ce n'est pas grave. Il lui dit, l'évangile ou la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dans le doute de Jean-Baptiste, est-ce que Jésus est vraiment le Messie ? Il lui dit, pour te rassurer, je suis venu pour les pauvres. En fait, il est en train de dire, je suis le fameux Messie qui va venir annoncer le jubilé. Non seulement publier cette année de grâce, Dieu a pardonné, Dieu guérit, Dieu relève, mais il souligne particulièrement le fait. Il faut que cette bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres. Ça fait partie de l'intention et du plan de Dieu. Et on va lire juste après, et là c'est dans l'ordre des slides que j'ai fait, c'est le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Je redis, on a chanté « Je veux connaître ton cœur ». Dans Ésaïe 58, le peuple d'Israël se tient devant Dieu, fait ce que Dieu dit pour qu'il le bénisse. Ils jeûnent, ils prient, ils vont à l'église, ils font tout ce qu'il y a à faire et Dieu dit, c'est important. Moi, je ne crois pas que Dieu est en train de dire qu'il ne faut pas jeûner parce que la Bible est remplie de cela. Mais il dit, voici ce qui me fait plaisir, voici le jeûne auquel moi je prends plaisir. S'il n'y a pas ça, il nous manque la dimension de la prière, mais il nous manque la dimension de l'aumône, c'est-à-dire le partage avec d'autres qui sont dans le besoin. Et on va le lire, c'est tellement important. Dieu dit ça, et ça me bouleverse dans ce temps dans lequel nous sommes. Nous voulons partager la bonne nouvelle, aller en mission. Vous savez, c'est cette série qui dit, on vient à Dieu, on veut connaître son cœur, on vient à Dieu, on veut l'adorer, on vient à Dieu, on veut être transformé, toutes ces choses, on veut voir sa puissance, toutes ces choses, c'est vrai. Mais il y a un deuxième volet qui est aller partager cette nouvelle, et en le faisant, il y a des choses concrètes, pratiques à faire. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Et voilà, le cœur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Et voici la promesse qui est liée à cela. Et je trouve extraordinaire. Je crains que je n'ai pas mis la bonne slide. Donc je vais vous le lire, écoutez-moi. Il y a une promesse. Comme la promesse que Dieu fait quand il dit quand tu donnes aux pauvres et puis tu fais l'aumône et puis que ta main droite ne sait pas ce que fait ta main gauche ou ta main gauche ne sait pas ce que fait ta main droite. Il dit qu'il y a une récompense quand tu le fais avec des motivations pures, par vraiment compassion. Et le but, qu'on ne le sache pas, c'est pour ne pas déshonorer la personne que tu es en train d'aider. C'est pour le relever, pour lui dire, je crois que non seulement je vais te donner à manger, mais plus que cela, tu vas vivre une restauration. Ce n'est pas simplement, les gens sont dans le besoin, on leur donne, ils restent dans le besoin. Nous sommes dans la foi que le royaume de Dieu, quand ça vient dans une vie, une famille, un cœur, quand le royaume de Dieu vient, il nous délivre de la pauvreté. On n'y reste pas, mais ça passe par un acte de compassion. Et on partage cela. Dieu dit, si tu le fais, il y a une promesse, il y a une récompense, il y a une faveur particulière. Comme Corneille, comme nous le désirons tous, alors ta lumière poindra comme l'aurore. C'est-à-dire, c'est Ésaïe 58, 8, 10. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. La promesse, elle est extraordinaire. On le veut très souvent, mais on se dit, la prière suffit. Je suis en train de nous dire, le cœur de Dieu nous dit, c'est la prière et l'aumône. C'est le cœur de notre Dieu. Il peut pas supporter simplement que nous prions, nous désirions des choses de lui, et que nous-mêmes ne soyons pas des vecteurs dont Dieu se sert pour que ce que nous demandons si ardemment, notre faim, notre soif qui intervienne sur le plan matériel, relationnel, tout ce qu'on demande à Dieu, nous ne soyons pas positionnés pour le donner aux autres. Vous êtes méchants avec les autres et vous voulez que je sois bon envers vous. Ça ne marche pas. Donc il y a deux volets à la piété chrétienne. Le jeûne, la prière. Mais il y a le fait de prendre soin de ceux qui sont autour de nous. Si ça n'y est pas, ou si c'est faiblement, eh bien, ces promesses-là sont faibles dans nos vies. On n'arrive pas à les vivre dans sa plénitude. Et c'est comme une clé. Dieu dit, prends soin des pauvres, et je prendrai soin de toi. C'est troublant à dire, mais c'est l'évangile. C'est peut-être pas dans nos schémas, mais c'est l'évangile. Peut-être même certains se sont convertis catholiques, et on dit les œuvres, ils se convertissent, ils disent non, c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, donc on ne donne plus aux pauvres. Je ne sais pas si vous voyez cette équation-là qui se passe. Là. Non, nous sommes évangéliques. Ouais, ouais. Le salut, c'est par la foi seule, pas les œuvres. Donc du coup, on n'est plus porté à... Alors, je veux réhabiliter une vérité biblique. On veut connaître le cœur de Dieu. Il y a une vérité biblique qui dit, pratique... En fait, il est dit, hein, celui qui pratique la justice, la pratique de la justice, c'est une pratique, c'est-à-dire on le fait régulièrement, comme on prie régulièrement. Donc ça veut dire que je vais organiser ma vie, mon temps, pour pouvoir donner aux pauvres.
Je vais pouvoir planifier, gérer mon argent pour pouvoir donner régulièrement aux pauvres. C'est une pratique, ça fait partie de la marche avec Dieu. Ça fait partie de dire, je crains Dieu, je pratique la justice. Pratiquer la justice, on va le voir, c'est très concret. C'est une des expressions. Et je voudrais dire, il ne s'agit pas que des pauvres physiques, mais ça en fait partie. Parce que la pauvreté aujourd'hui en Occident, je ne suis pas sûr que ce soit que la pauvreté physique. Il y en a, franchement. Il y a de vrais besoins. Il y a des gens, franchement, c'est dur. Et il nous faut être délivrés de conceptions héritées, je ne sais d'où, qui croient que la plupart des gens qui sont pauvres, ben, c'est parce que sont des paresseux. Vous me suivez là? Il y a les pauvres en esprit, il y a d'autres sortes de pauvreté. Une pauvreté qui nous dit quoi? Un manque profond. Les besoins fondamentaux qui ne sont pas rencontrés. Oui, c'est la nourriture, et il en existe, et il faut absolument que parmi nous, comme en dehors, partout où on peut, c'est sûr, Jésus dit, on aura toujours les pauvres au milieu de nous. Toujours. D'accord? Ça fait partie du cycle. Le but, c'est pas de les aider pour qu'ils restent là. On leur donne pas juste du poisson. On commence par leur donner du poisson pour qu'ils mangent, mais on leur apprend à pêcher pour qu'ils sortent de là. Ça, c'est la vision chrétienne. D'accord? On est concerné. Mais il y a d'autres types de pauvreté. Et on le sait. La solitude est une grande pauvreté. Et le Seigneur veut nous conduire chacun à aller, à être en mission vers nos pauvres. C'est obligé. Si nous sommes croyants, nous avons des pauvres vers qui Jésus nous envoie. Est-ce que le message passe là? Est-ce que je prêche à quelqu'un qui reçoit cela? S'il vous plaît. Si vous le recevez, secouez les mains comme ça. C'est tellement important. Si tu vis ta vie chrétienne et tu n'as pas des pauvres vers qui Jésus t'envoie, tu ne suis pas Jésus. Jésus dit, je suis venu pour les malades, je suis venu pour ceux qui sont dans le besoin, pas les justes, pas ceux qui n'ont pas de besoin. Donc ça veut dire que tu as des ressources que tu mets à disposition de ceux qui sont pauvres. C'est ton temps, c'est ta présence. Tu dis, je n'ai pas beaucoup d'argent, soit. Mais tu as des ressources qui correspondent. Dieu t'a donné des ressources qui correspondent à des pauvres et il veut t'ouvrir les yeux pour que tu sois envoyé vers les pauvres. C'est là la mission dont on parle. Le out dont on parle, on ne va pas simplement pour jeter la bonne nouvelle à la figure des gens. J'ai beaucoup aimé ce que Blaise disait, de la chair à convertir. La chair à convertir, mais c'est monstrueux. Par contre, c'est des pauvres dont nos cœurs sont touchés, la compassion vient et on est envoyé. Je peux vous dire, imaginez dans cette ville, un service que j'ai déjà connu dans le passé, SOS pour des gens seuls, d'accord ? C'est peut-être même un service qui existe déjà, mais c'est des croyants qui vont être présents auprès des gens seuls. Il y a des gens tellement malheureux, ils ne savent pas à qui appeler quand ils sont au bout du bout. Pour moi, c'est des vrais pauvres. Vous me suivez là? Des gens qui se lèvent, qui disent, je ne peux pas recevoir cette... Je suis comblé, j'ai un sens d'appartenance, je suis ici dans la famille de Dieu. Alléluia! D'accord? Excusez-moi, c'est une petite caricature. Mais tellement on peut être heureux, content à l'intérieur et pas considérer les gens qui sont pauvres de ce dont nous sommes riches. Moi, dans ma famille, je dis souvent, ma plus grande richesse, j'ai des frères non-croyants, c'est vous, c'est la famille de Dieu. C'est une richesse qui est extraordinaire, un sens d'appartenance qui est extraordinaire. Mais il y a des tas de gens qui ne l'ont pas. Donc il y a ceux qui vont se lever qui disent, moi, je veux partager, je veux aller vers les pauvres, je veux faire mon aumône avec les ressources que Dieu m'a données. Mais on va le partager aussi concrètement pour ceux qui sont dans le besoin. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente. Waouh. On aime bien la suite. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ça vient de citer ce genre de promesses qu'on confesse. Mais c'est un tout. La suite aussi, et tes ténèbres seront comme le midi. Dieu est bon. Alors, Jésus, je continue, Jésus dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Et en fait, la pratique de la justice fait partie de ce qu'il attend naturellement de ceux qui font partie du royaume. Et puis, il nous est dit, dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Waouh, quelle promesse! Le royaume de Dieu vient avec sa justice. Et la pratique de la justice conduit à dire Dieu, Dieu promet. Il résume tout ce qu'on a lu dans Ésaïe 58, il résume, il dit, écoute, toutes ces choses, bon, dans toutes, il y a toutes. Ça veut dire, c'est tout. Il n'y a pas une partie qui n'y est pas, tout. Tout ce dont nous avons besoin. Il le résume par le pain, la nourriture, le vêtir, donc boire, manger, et il le résume comme ça. Ça, c'est les besoins fondamentaux. Mais tout, toutes ces choses-là nous seront données par-dessus si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et dans sa justice ici, c'est la pratique de la justice dont on parle. Pas que. Bien sûr, il s'agit de dire « je suis justifié », ce n'est pas par les œuvres que je suis sauvé. C'est là le problème, avec lesquels la théologie catholique, on s'en diffère. Et puis voilà, là-dessus, on est au clair, on est sauvé par la foi seule dans l'œuvre de Christ à la croix. Et sa mort me justifie devant Dieu. Croire en ce qu'il a fait me justifie. Je suis juste. C'est cette dimension qui est indispensable. Je cherche à être juste, non par mes œuvres, mais par la foi en ce qu'il a fait. Là-dessus, nous sommes d'accord et j'aimerais bien entendre un « Amen ». Ok, super. Maintenant, il y a une deuxième dimension, comme je vous dis. Pratiquer la justice, ça veut dire prendre soin des pauvres. Il ose même dire, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Ça va très très loin, la notion de justice, là. On parle de justice sociale, pas de justice morale. Il y a les deux. En Christ, il y a la justice morale, c'est-à-dire nous sommes justes devant Dieu, d'accord ? Ça c'est la moralité, il n'y a pas de péché dans nos vies à cause de notre foi en Jésus, mais il y a la justice sociale, prendre soin. Et dans ces mêmes béatitudes, Jésus à un moment donné, il dit « vous ne pouvez pas servir deux maîtres ». Et il met l'argent à un niveau en compétition avec Dieu. J'aimerais résumer cela en disant, quand après il rentre dans les détails, les oiseaux ne s'inquiètent pas, etc. Les lys des champs ne s'inquiètent pas, comment ils seront vêtus. C'est la notion d'inquiétude. On n'est pas inquiet, on fait confiance en Dieu. Ne vous amassez pas des trésors sur cette terre. Je voudrais partager rapidement quatre choses qui manifestent le fait que l'argent n'est pas notre Dieu, notre maître, mais est un serviteur. Il y a le fait que nous inquiétions pas, et que nous fassions confiance à Dieu. Ça, c'est un point qui traverse le tout. Mais la Bible nous enseigne quatre façons de gérer notre argent pour déclarer que c'est Dieu notre maître. La dîme appartient à Dieu. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas mon sujet ce matin. Mais dans Genèse 14, avant la loi, Abraham, le père de la foi, qui est notre modèle de foi et de dépendance de Dieu, donne la dîme à Melchizedek qui, dans le Nouveau Testament, dans l'hébreu, il nous est dit que Jésus est Melchizedek. D'accord ? Le souverain sacrificateur. Et il lui donne la dîme de tout. Et c'est cette base qui, pour nous, nous dit, quand tu rencontres Dieu, que tu marches par la foi, avant la loi, tu donnes à Dieu 10% de tes revenus. C'est de ça dont il s'agit. La preuve que l'argent n'est pas mon maître, c'est que je donne 10% de mes revenus. Mais ça ne s'arrête pas là, ça continue. Les offrandes expriment notre reconnaissance à Dieu. Je rentre pas trop dans les aumônes dont on est en train de parler et l'épargne ou les fonds d'urgence. Et en fait, on en vient à dire, ici, avec Marie-Hélène, nous sommes dans la logique de vivre avec 80% de nos ressources, parce que si 10% est donné, le reste, notre cible, c'est 10% pour donner offrandes, aumônes, épargne et fonds d'urgence. Cette conviction m'est venue il y a 3 ans, et je l'ai prêchée à l'église ici, et depuis, j'ai engagé notre église, le budget de notre église, toutes les ressources que nous recevons, nous mettons de côté de l'épargne, de l'offrande, des fonds d'urgence et de l'aumône. Ce qui fait que dimanche dernier, il y a quelqu'un qui est venu, mais vraiment au bout du bout, sans papier, sans argent, sans rien. Comme nous avons mis de côté, nous avons pu donner à cette personne ce qui était nécessaire pour sortir de cette situation, qui était carrément au bout, et pas simplement parce qu'on va lui demander, on va faire une offrande. Dans la gestion de l'argent de notre église, nous mettons de l'argent de côté pour pouvoir aider les pauvres. Il faut que l'église le fasse pour être en autorité, pour pouvoir dire cela. Dans notre propre vie, nous le faisons avec Marie-Hélène. C'est 4 autres. Il y a la dîme, puis il y a 4 autres. Fonds d'urgence, c'est pourquoi
Si on prend l'exemple de Joseph, Joseph, quand il arrive premier ministre de l'Égypte et que la crise arrive, la famine arrive, il dit de mettre de côté, de ne pas vivre, de prendre tout, de ne pas manger toute la ressource qu'on a, mais de mettre de côté de telle sorte que quand il y aura des temps difficiles, nous ayons de quoi pourvoir, répondre. Et les croyants, souvent, interprètent mal la parole en disant on va vivre avec tout ce qu'on a et Dieu pourvoira à chaque étape. Ce n'est pas vrai. La sagesse nous conduit à mettre de l'argent de côté pour des temps difficiles. Moi, si j'avais su ça plus tôt, ça m'aurait... Je crois que plusieurs pourraient dire, oh là là, si j'avais mis de côté... Il y en a qui peuvent témoigner. La sagesse de gérer selon les principes bibliques. Tu donnes à Dieu, tu épargnes, et ça ne fait même pas forcément en premier. Moi, nous, on fait 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, ça fait 10%. 2,5 d'offrande, 2,5 d'aumône, 2,5 d'épargne et 2,5 de fonds d'urgence. L'objectif est de vivre avec 80% pour que tu aies les moyens de pratiquer la justice. Si tu ne organises pas ton argent, tu ne le gères pas pour qu'il soit ton serviteur, pour qu'il fasse ce que tu as envie qu'il fasse et qu'il ne te domine pas dans ta vie pour que tu fasses ce que finalement tu n'as pas envie de faire, quand il est un bon serviteur, eh bien, tu lui commandes de faire ce que Dieu te dit de faire. Et la pratique de la justice en fait partie. Imaginez, je ne sais pas moi, ça vous fait 100 euros par mois d'aumône. Vous faites le calcul. Ça, c'est, je ne mets le joug à personne. C'est une inspiration. Comme la dîme d'ailleurs, c'est une inspiration qui déclare quelque chose. D'accord ? On appartient à Dieu. On le dit, c'est 10%, mais tu peux donner 15 et 20 et 30 et 50. Il y a même un pasteur, Rick Warren, vous savez, qui donne 90% de ses revenus. Bon, faut dire, c'est lui qui a écrit Une vie, une passion, une destinée. Il a vendu des millions d'exemplaires. Il a plus besoin d'argent, vous comprenez? Donc, il reçoit un salaire de l'Église et il redonne à Dieu sa dîme, c'est 90%. Alléluia. En vérité, moi, je crois que c'est le rêve de donner à Dieu tout. Quand on l'aime, on donne tout. L'argent lui appartient, tout lui appartient. Mais te donner pour objectif de vivre avec 80% pour avoir les moyens de faire des offrandes. En fait, ça veut dire, au-delà de la dîme, je fais des offrandes à Dieu. J'ai les moyens de donner encore plus pour les projets. J'ai les moyens. Je me donne les moyens parce que je gère mon argent pour être en capacité de pratiquer la justice. Je vais bientôt arriver à des choses très concrètes pour nous. Là, je vais sauter ça. Dans l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de pauvres. Il nous est dit ça dans Actes 4, 34. Ils mettaient tout en commun. Ils ont reçu le royaume, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça les a conduits à toucher à leur argent. Et à l'époque, c'était du 100%. Ils donnaient tout. Et tout était géré. C'était redistribué. On est dans un modèle économique assez exceptionnel. On est juste en train de dire 20%. Là, ils étaient à 100%, parce que c'est une parenthèse. Quand Paul il va à Jérusalem et puis qu'il présente son évangile, ce qu'il présente aux païens, Jacques, Jean et Pierre lui disent « Super, super, tout, super. Une chose, attention Paul, l'évangile, le vrai, il faut prendre soin des pauvres. » Donc lui, il a présenté la justification par la foi que nous connaissons, qu'on lit, alléluia, nous évangéliques, on est très pauliens, alléluia. Mais les apôtres qui étaient ses vis-à-vis, ou en tout cas envers qui il a choisi de soumettre son évangile, ils lui ont dit « Attention, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. » C'est extraordinaire. Il y a une dimension de soin des pauvres de l'évangile. C'est très important. Alors, on est dans Hébreux 13, 16. En fait, j'avais lu Hébreux 13, 16, « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Libéralité ici, c'est partager aux pauvres, être libre dans la gestion de notre argent pour partager aux pauvres. D'accord ? Alors donc, la générosité et la joie, Dieu donne à tous simplement et sans reproche. Ça, j'aime beaucoup ce verset de Jacques. Quand on manque de sagesse, voilà, un manque de sagesse, on est pauvre en sagesse, on demande à Dieu et il donne librement et sans reproche. J'aime ça. Il donne à tous simplement, librement et sans reproche. Et la sagesse sera donnée. Dieu aime celui qui donne avec joie et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ouais. Il y a quelques-uns qui sont d'accord avec ça.
Dieu aime le cœur de Dieu. Son cœur vibre, il l'aime. Celui qui a compris cela et qui donne avec joie. C'est des sacrifices qui lui sont agréables. Il l'aime quand ça devient une habitude, et puis quand on le fait, notre cœur vibre. Et quand on le fait, on le donne avec joie. Parce que des fois, on dit, ouf, il faut que je le fasse. Ouf, ça vient me chercher sur des tas de choses. À un moment donné, tu comprends son cœur et tu le fais avec joie. Tu le fais avec joie. Il aime celui qui donne. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les autres. Celui qui donne avec joie a compris la générosité. Il a compris son cœur. Le cœur de Dieu est généreux. Le cœur de Dieu est généreux. Le cœur de Dieu est généreux. Et quand on a eu révélation de son cœur et qu'on devient généreux, il dit « Voici mon fils. Voici quelqu'un qui me ressemble. Voici quelqu'un qui a compris mon cœur. » Qui a compris ce qui est au-dedans de moi, et puis qui donne avec joie, et qui le fait de telle sorte que son bonheur est de plus donner que recevoir. J'organise ma vie pour plus donner de mon temps, de mon argent, de mes compétences, en disant je vais vers les pauvres que Dieu m'a donnés. Je finis avec un verset de Proverbe 19-17 que je trouve extraordinaire. Donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur. Et il récompensera cette générosité. Je répète. Tu rentres en dette avec Dieu quand tu donnes aux pauvres. Non mais c'est quand même quelque chose. Tu donnes aux pauvres, il dit, ok, puisque le pauvre ne peut pas te le rendre, moi je te le rendrai. Tu es en dette avec Dieu. Seigneur, tu me dois quelque chose. Comment ? Moi ? Oui, oui. Ta parole dit... Moi, l'Éternel, Dieu souverain, je te dois quelque chose. Oui, j'ai compris ton cœur, j'ai pris soin des généreux et tu as dit que tu me récompenserais. J'ai pris soin des pauvres, j'ai pris soin des pauvres. Tu as dit, ta parole a dit. Et j'attends cela, pas comme un dû. Là, c'est pas capter le cœur de Dieu. C'est juste que son cœur est abondant et généreux. Et quand tu es abondant et généreux en prenant soin des pauvres, le ciel s'ouvre comme pour Corneille. Les anges de Dieu visitent ta maison. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Prêtez au Seigneur. Prêtez au Seigneur. Imaginez, ça ne vous soulage pas de dire, ah ben tiens, là ça va changer ma perspective de donner aux pauvres. Ça change. Tu rentres en compte. C'est comme si Dieu comptabilise, ok, t'as donné ça, alors là, t'inquiète pas. Là, ça là, cette semence qui est donnée, elle va multiplier. Nous avons dans notre église, dernière slide s'il te plaît, une œuvre de bienfaisance, une œuvre de compassion qui s'appelle l'EPSO, épicerie solidaire. C'est les deux containers, les quatre containers là-bas qui sont dans notre parking. Et le cœur de l'EPSO, c'est de partager la bonne nouvelle de l'Évangile et de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin sur le plan matériel. Les nécessiteux. D'accord ? Et je voudrais dire que le but de l'EPSO n'est pas simplement de donner des aliments, mais c'est de vraiment relever les gens qui sont dans cette situation et de croire en leur réhabilitation. Nous avons plusieurs témoignages de personnes qui sont passées par l'EPSO et qui, à cause des économies qu'ils ont réussi à réaliser. Et à cause de l'accompagnement, ça les a mobilisés pour croire en leurs rêves. Et puis, ils ont accompli leurs rêves. Il y a un restaurant qui s'appelle L'Original, qui est dirigé par quelqu'un qui est passé par l'EPSO et qui, ce samedi, sera le prestataire qui va nous faire les pâtisseries orientales. Elle a créé son resto après être passé un an d'accompagnement. N'est-ce pas extraordinaire ? N'est-ce pas extraordinaire ? Mais, vous comprenez ? Ça prend des personnes, une vingtaine, une trentaine de bénévoles. Il y a trois salariés financés par la structure elle-même, c'est-à-dire l'exploitation. Ils viennent, ils achètent à peu près à 10% du prix du marché, d'accord ? 90% à cause de la structure, bac alimentaire, des aides. On arrive à leur
donner accès à quelque chose et ils payent. Donc du coup, ça participe à leur dignité. Vous savez, quand on paye, on a l'impression de ne pas faire la manche, pas être un mendiant. D'accord ? Donc ça participe à leur dignité. Mais le modèle économique n'est pas fait pour que ça dégage de l'argent. Qu'on puisse... En fait, il nous manque 2 salariés de plus pour pouvoir fonctionner normalement. Ce qui fait que ça donne beaucoup de pression sur les salariés et les bénévoles. Dès qu'il y a quelqu'un qui manque, c'est compliqué. Ce que nous souhaiterions, c'est que l'Église, en captant la vision de l'aumône, puisse donner à l'EPSO comme une pratique de la justice. C'est notre bras armé, c'est notre bras d'amour, on pourrait dire, pour donner à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Eh bien, l'EPSO le fait depuis 5 ans et c'est tellement une bénédiction en termes de réputation dans cette ville qu'on nous demande, et nous-mêmes on comprend qu'il nous fait faire d'autres l'EPSO. Imaginez qu'il y ait 8 EPSO à Montpellier. Nous pouvons le faire, mais on va demander de l'aide parce que c'est une action aussi qui revient à un mandat et aux missions de l'État, du département. Mais une mobilisation de croyants qui se mettent à pratiquer la justice, avoir les moyens, organiser leur vie pour dire nous allons donner régulièrement, nous allons pratiquer cela, comme Dieu le dit. Je peux vous dire, si nous voulons implanter des églises, il nous faut implanter aussi des l'EPSO. Ça va de pair. On veut que le royaume de Dieu avance, on veut qu'il y ait des implantations d'église. Il nous faut des implantations qui incarnent la dimension de la pratique de la justice dans notre église, dans notre ville, ici et maintenant, où on dit le cœur des croyants s'est mobilisé, ils comprennent ce que le royaume de Dieu signifie et ils mettent à disposition des ressources pour que l'église soit en capacité, au travers. Parce que les salariés qui sont là et quelques bénévoles, c'est des croyants de notre église. Et je voudrais dire qu'il y en a plusieurs qui ont pris leur baptême et d'autres qui sont en cours de préparation. Isabelle, c'est vrai ? D'accord, Nathalie n'est pas là, je crois. Elle est là ce matin, Nathalie. Mais plusieurs sont en train de cheminer. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu s'est manifesté. Au-delà de l'aide alimentaire, il y a quelque chose de l'amour de Dieu qui se transmet. Mais je suis touché par ce que vit l'EPSO, parce que nous voulons grandir, mais il faut consolider déjà ce qu'il y a. Mon rêve, c'est qu'il y ait une pratique. Alors, à la fin du culte, il y a des... Comment on va appeler ça ? Le RIB de l'EPSO. Vous savez qu'ici, dans notre vie d'église, nous levons des offrandes, on peut les donner par virement. Nous allons donner par virement, et l'idéal, ce soit un engagement qui nous permette d'asseoir, de pouvoir employer d'autres personnes dans l'EPSO, pour pouvoir prendre soin que cette mission puisse être atteinte, accomplie dans de bonnes conditions. La pression est énorme sur le plan organisationnel, mais spirituel. Et ce n'est pas qu'ils ne soient pas capables de le tenir, mais si on a les moyens de pouvoir répondre avec pertinence, et que l'Église saisit l'enjeu de l'aumône comme une expression du cœur de Dieu, on a connu le cœur de Dieu. Alors je nous recommande de prier en famille, en couple, pour envisager d'intégrer dans notre budget. Alors, je vous ai donné un autre exemple avec Marie-Hélène, mais je ne mets pas de pression pour les uns et les autres ici. Ce n'est pas une ordonnance, une sorte d'injonction dans vos vies, de vous expliquer la parole, de donner un exemple de comment que nous l'incarnons avec Marie-Hélène. Mais si vous êtes à 5% et vous êtes à 5%, vous êtes à 5%. L'objectif, c'est de comprendre là où on doit aller et d'aller graduellement jusqu'à cela, dans la perspective d'avoir les moyens de pratiquer la justice, les moyens d'être des agents du royaume, au travers de l'argent, qui est un serviteur, un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et du coup, priez, écoutez le Seigneur et engagez-vous. L'idéal, c'est que ce soit des virements ou des dons réguliers, vous faites un chèque, vous mettez au dos EPSO, on comprendra que c'est fléché, dirigé vers les aumônes. C'est l'aumône versée à notre structure auquel nous croyons fortement. Et je voudrais qu'on finisse par juste encourager ceux qui travaillent dans l'EPSO en les acclamant. Je vais leur demander de se lever. Attendez. Je vais leur demander de se lever. Monique, si tu veux bien te lever. Et tous ceux qui travaillent dans l'EPSO aujourd'hui, levez-vous. Parce que c'est... Oui, tu peux. Même si là, en ce moment, t'inquiète pas. Tous ceux qui en font partie. Loïc est là. OK. Et Isabelle. Ah, ben tiens. Claire, dans ces 6 mois, a eu le temps de passer à l'EPSO. 6 mois au milieu de nous. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît ? Ce sont des serviteurs de Dieu, des servantes.
C'est quelque chose qui connaît le cœur de Dieu. Ils connectent au cœur de Dieu. Ils expriment le cœur de Dieu. Je suis reconnaissant au Seigneur. Merci, vous pouvez prendre place. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur d'avoir non seulement l'outil, mais ce sont les gens qui y travaillent, qui font la qualité de ce qui est dispensé. Ce sont des ambassadeurs du royaume de Dieu. Je vous invite à nous lever, s'il vous plaît. Seigneur, je veux bénir chacune des maisons représentées ici. Même les étudiants qui sont seuls, chacune des personnes ici qui a géré un budget. C'est devant toi que nous venons et nous comprenons que pour la mission dans laquelle tu nous envoies, il nous faut des ressources, il faut gérer pour être en capacité de soutenir, de bénir ceux qui sont dans le besoin. Je veux prier, Seigneur, que tu renouvelles nos dispositions intérieures pour bénir. Tu renouvelles nos dispositions intérieures pour élargir même la mesure. Merci de nous ouvrir le cœur pour tous ceux qui sont en manque, quel que soit le manque. Il y a le matériel, nous le savons, et ta parole est très claire à ce sujet. Nous accueillons cela dans nos vies, nous accueillons cela dans nos êtres intérieurs. Mais je te prie, tu nous ouvres les yeux, tu nous envoies dans cette saison où on veut aller en ton nom, que tu nous donnes un fardeau, que tu nous donnes une population en manque, un profil particulier en manque. Tu nous équipes à donner du temps, du cœur, de l'argent à ceux qui sont dans le besoin, au nom de Jésus-Christ. Qu'à cause de cela, le ciel s'ouvre. Qu'à cause de cela, la lumière et la révélation viennent sur nous. Qu'à cause de cela, Seigneur, tu manifestes ta puissance et ta grâce. Que la guérison même germe promptement au nom de Jésus. Qu'à cause de cela, c'est même ce qui est retenu. Nous comprenons ici les choses qui peuvent être retenues. Soit déliées dans la foi au nom de Jésus. Tu dis que si nous donnons aux pauvres, Seigneur, toi-même tu deviens notre débiteur. Et merci pour la récompense. Merci pour la générosité du ciel qui vient sur chacune de nos vies à cause de la compréhension de la vérité de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.